Stephen King aime les enfants, Stephen King aime les sectes, Stephen King a écrit Les Enfants du Maïs et Donald P. Borcher l'a adapté. Bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris.
Bonjour.
Ça va?
Mais très bien.
T'as passé un bon moment?
Devant le film?
Oui.
Ouais.
C'est un petit ouais.
On en reviendra.
Ouais, on va y revenir.
Ouais, merci encore.
Bon, mais de rien, tu savais que c'était une bonne idée en plonçant là-dedans, j'en ai encore plein comme ça dans le chapeau.
Ah, celui-là, c'est toi qui l'as tiré en plus, hein, donc merci.
Bon, bah, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Bon, bah on va s'y lancer tout de suite.
Bah écoute, vas-y.
Alors c'est parti, et je rappelle que nous allons spoiler la nouvelle, bon, qui fait 30 pages, et le film. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez rien savoir, vous pouvez revenir par la suite.
Ce qui serait vraiment dommage.
Ce sera vraiment dommage.
Ce magnifique film ne dure pas 1h34 de trop.
Les Enfants du Maïs nous racontent l'histoire de Bert et Vicky, un couple dont les relations ne sont pas au beau fixe, qui un jour, par accident, écrase un enfant sur une route déserte du Nebraska, et en voulant le signaler, ils se rendent compte que la ville qu'ils traversent est visiblement dominée par les enfants depuis plus d'une dizaine d'années, des enfants qui croient en une divinité maléfique du maïs qui leur ordonne de tuer tous les adultes, y compris eux. Alors, Les Enfants du Maïs, c'est une nouvelle d'une trentaine de pages qui a été publiée pour la première fois dans le numéro de mars 1977 de Penthouse, puis qui a été recueillie dans le recueil Danse Macabre en 1978. Le film, lui, date du 26 septembre 2009. Alors, la nouvelle, je vais être honnête, on n'en sait pas grand-chose, c'est contrairement au roman, Stephen King revient pas forcément énormément sur ses nouvelles.
Oui, voilà, c'est ça, je pense que ça sera le cas pour beaucoup de nouvelles.
Oui, alors surtout que, autant dans les recueils postérieurs, il a tendance à mettre une petite introduction à chaque nouvelle pour expliquer le contexte, ce n'est pas le cas dans Danse Macabre. En faisant mes recherches, moi, je suis tombé sur une journaliste américaine, Laura Ingraham, qui comparait Greta Thunberg aux Enfants du Maïs, donc voilà, ça vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau.
Est-ce que c'est vraiment pertinent, Issam?
Je sais pas, c'est cadeau, c'est offert, voilà.
Le plaisir d'offrir.
C'est ça. L'origine de la nouvelle, on peut supposer que c'était King qui avait envie de raconter une histoire de foi déviante, il aime bien quand même revenir sur des religions qui partent un peu en couille, Stephen King. C'est autant il est croyant, autant les dogmes religieux, c'est quelque chose avec lequel il a plus de mal.
Ouais.
Et c'est très clairement présent dans la nouvelle. La seule fois où il est vraiment revenu dessus, c'est pour un recueil qui s'appelle Stephen King Goes to the Movies, qui est un recueil de plusieurs textes qui ont été adaptés en film. Et ce qu'il en dit, plus ou moins, c'est qu'il comprend vraiment pas pourquoi il y a eu autant de films Enfants du Maïs.
On en est à combien? On en est à 11 ou 12 maintenant?
On en est à 10, 7 dans la saga originelle et 3 spin-offs. Et en fait, la nouvelle avait déjà été adaptée une fois dans un film à sketch qu'on fera aussi à l'occasion. Donc 11 adaptations au total. Ouais.
J'ai grand hâte.
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette nouvelle.
Au niveau de sa création,
évidemment.
On peut du coup parler du texte brut en lui-même.
Et donc le texte, oui, qu'est-ce que tu en penses?
Moi je pense que c'est une nouvelle très agréable à lire. La force de cette nouvelle, c'est qu'elle a réussi à instaurer une ambiance vraiment tout le long, du début à la fin, là où le film échoue lamentablement. Alors qu'au final, c'est un long dialogue pour la majorité de la nouvelle, puisque ça commence à devenir mystérieux, vraiment, enfin mystérieux, ça commence à devenir très action vraiment sur la fin, et ça institue tout un mystère autour de l'absence de gens dans cette petite ville dans laquelle ils arrivent, l'accident au tout début où le garçon est renversé, d'ailleurs cette scène est totalement ridicule dans le film, ça aussi on y reviendra, parce que King sait instaurer du suspense, c'est-à-dire quand il renverse l'enfant au début, on ne sait pas si c'est un gamin. Déjà, il y a le suspense de « il sort de la voiture, ils avancent vers le cadavre » et là, on se rend compte que c'est un gamin. Puis on se rend compte qu'il est mort depuis avant l'accident, puisqu'il a été égorgé. C'est une succession de suspense qui sont désamorcés ensuite pour recréer un nouveau suspense derrière.
J'ai eu la même sensation en lisant la nouvelle. En fait, chaque élément est très bien amené. Il y a presque une progression de jeu vidéo où tu progresserais d'indice en indice. Oui. C'est ce que ça m'a évoqué. Même quand il arrive dans la ville, qu'ils se rendent compte que les calendriers sont stoppés 12 ans plus tôt.
Oui,
qu'après, ils arrivent dans l'église et que c'est là qu'il va faire tout leur coupement en voyant les registres des naissances et des morts.
C'est le personnage féminin qui fait beaucoup de rapprochements étranges comme ça dans la ville. Elle se rend compte du prix de l'essence au début qui est très bas.
Oui.
Ensuite, lui, il se rend compte des prix affichés au restaurant.
C'est elle aussi, je crois, qui se rend compte que les calendriers se sont arrêtés.
Ouais, exactement.
Il y a le fait qu'ils n'entendent aucun bruit, et puis qu'après ils entendent les enfants, ce qui brièvement les rassure. Enfin, il y a vraiment
ils entendent des rires d'enfants.
Un art pour amener les révélations. Et ça marche aussi parce que pour une nouvelle de 30 pages, il se passe énormément de choses finalement.
Ah oui.
C'est une nouvelle qui a un rythme plutôt rapide, comme beaucoup des nouvelles de cette époque de King d'ailleurs.
Et le fait que ça soit un long dialogue sur facilement les 15 à 20 premières pages, ça aide beaucoup.
Oui.
Parce qu'un dialogue, c'est vraiment, c'est beaucoup plus rythmé qu'une succession de descriptions, forcément.
Je trouve aussi intéressant qu'il ait choisi de prendre deux personnages qui sont pas très sympathiques en fait, qui se détestent,
oui,
très clairement.
Oui, tu peux le dire, hein. C'est viscéral, là, non ?
Et en nouvelle, ça passe plutôt bien, je trouve. C'est quelque chose d'assez inhabituel d'avoir des personnages qui ne s'aiment pas, tu t'attendrais plutôt à l'inverse.
Est-ce que même dans... On est dans les pensées de l'homme, pour le coup.
Oui.
Clairement, il y a des passages où il se retient de lui en coller une, quoi.
Il lui en met une, d'ailleurs.
Il lui en met une, oui, d'ailleurs.
Ouais. Et lui, il y a un autre passage où il lui vole ses clés. Enfin, il est violent avec elle à au moins deux reprises dans la nouvelle.
Oui, oui. Il est violent physiquement et verbalement, par contre, tout au long de la nouvelle.
Et verbalement. Après, verbalement, elle est tout aussi odieuse avec lui. Elle est pas plus sympathique que lui, je trouve, au final. Donc, ouais, une plutôt bonne nouvelle. Moi, le seul truc que je regrette, c'est à la fin, la conclusion fait arriver beaucoup trop nettement le fantastique et j'aurais préféré que ça reste plus ambigu.
Plus mystérieux.
On ne sache jamais si le duo du maïs que les enfants vénèrent est réel ou pas.
Alors que là, il coupe. King coupe tout, toute supposition du lecteur, quoi.
Ouais.
Il t'impose l'existence du duo du maïs.
C'est là que j'aurais été curieux d'en savoir plus sur cette nouvelle parce que je me demande si c'est quelque chose qui était déjà dans la version qu'il a écrite pour Penthouse, ou si c'est quelque chose qui a été rajouté dans les corrections éditoriales pour la version en recueil.
En recueil, oui.
Parce qu'il y a certaines nouvelles qui ont pas mal bougé, je sais, de l'une à l'autre. Mais voilà, oui, c'est un bon moment.
Mais oui, c'était une très bonne lecture, contrairement au film.
Contrairement au film, et je pense qu'on va pouvoir y venir, parce que je vois pas quoi ajouter sur la nouvelle.
Non, bah, lisez-la.
Et c'est parti pour le film.
Somebody was watching me.
Maybe someone was.
We gotta get out of here!
Time of judgment is now at hand.
Alors, le film, comme je le disais, c'est écrit, réalisé et produit par Donald P. Borcher pour la chaîne Sci-Fi avec un budget de 4,5 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup.
Effectivement.
Borcher, donc de base, c'est juste un producteur et il n'y a vraiment rien de très faramineux dans sa filmographie. Il a produit notamment Les Prochaun 2. Voilà, bon, d'autres trucs de ce genre-là, c'est tout du même acabit, hein. C'est de la série B de qualité un peu discutable. Et il avait produit aussi Les Enfants du Maïs, enfin Les Démons du Maïs plutôt, l'original, celui de 1984. Cette version-là de 2009, c'est son premier scénario plus ou moins en solo. C'est le troisième film qu'il réalise, mais les deux autres dataient d'il y a plus de 10 ans. Et il avait à peu près rien fait depuis 2001, au moment où il fait Les Démons du Maïs, et depuis il n'a rien fait de plus, il n'y a rien indiqué sur sa fiche IMDb.
C'est pas un homme très actif, ou alors c'est un homme de l'ombre.
Ouais, c'est depuis les années 2000, en tout cas, il est pas très actif, je pense. Il n'était pas satisfait, en fait, du travail qu'il avait effectué sur l'original de 1984, et quand on regarde les différents making-of, il assume une bonne partie de la responsabilité de l'échec, selon lui, de ce film original. parce qu'il dit qu'il avait voulu trop hollywoodiser, comme il le dit, l'histoire originale. Ouais. Il y avait eu un scénario écrit par Stephen King qui suivait très fidèlement la nouvelle, et lui, il avait grandement modifié pour rendre ça plus accessible. Donc notamment, il avait rendu le couple beaucoup plus sympathique. Ils ne se disputaient pas, ils étaient au début de leur mariage et ils ne se disputaient pas comme ils le font dans la nouvelle et dans le film qu'on va voir là. C'était pas mal atténué au niveau de la violence. Les enfants étaient beaucoup plus âgés, ils avaient tous aux alentours de 16, 17, 18 ans. Et la fin était beaucoup plus heureuse. Donc en fait, ils changeaient à peu près tout.
En fait, ça n'avait plus rien à voir.
Ouais, à part le concept d'enfants qui... C'est ça, à part le concept des enfants qui vénèrent un dieu du maïs, il n'y avait pas grand-chose à voir. Et lui-même admet maintenant que même si le film est devenu culte, c'était une erreur et il voulait faire quelque chose de plus fidèle à l'esprit de King, et surtout en reprenant les thématiques que King avait voulu aborder. Donc notamment la critique de la religion, qui voulait reprendre et qui effectivement est très présente quand même dans sa version. Peut-être trop présente, on y reviendra, les messages sont un peu appuyés à la truelle.
Non.
Apparemment, il voulait aussi faire passer un message sur le fait que être bon moralement, c'est un devoir envers soi-même et c'est pas en attente d'une récompense. Alors moi, j'ai pas vu ce message dans le film.
Oui, non, pas du tout.
Mais bon, s'il le dit, hein, on va lui faire confiance. Il a travaillé à partir du scénario que King avait écrit à l'époque et que donc il avait refusé, mais il a modifié, d'après ce qu'il dit, pas mal de choses. Il a contacté King en lui envoyant le scénario modifié, en lui demandant son avis, en lui demandant s'il voulait participer à ce projet. King a fait répondre via son avocat qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cette version. Et pour le coup, quand il raconte ça, Borcher, on sent que ça l'a vraiment affecté pour le coup, qu'il aurait vraiment aimé que King travaille sur ce film. Je pense que réellement, il y avait une certaine sincérité dans le projet de sa part.
King a des relents Alan Moore-esque par moments.
Ouais, bah alors en même temps, il avait déclaré, les rares fois où il parlait de cette saga, c'était pour dire qu'il trouvait que ça avait duré 6 films de trop, si ce n'est 7 films de trop,
oui,
donc
voilà.
Au bout d'un moment, fallait s'y attendre à ce qu'il veuille pas participer.
Globalement, dès le premier, il trouvait que c'était pas terrible, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors on trouve pas mal d'informations quand même sur la genèse du film, parce qu'il y a un making-of d'une quarantaine de minutes sur le DVD anglais, et le réalisateur, Borcher, a toute une chaîne YouTube sur laquelle il y a plein de vidéos liées à la création du film. Mais dans ses vidéos, il a une approche de producteur exclusivement, c'est-à-dire il va expliquer comment il a réuni le budget, comment il a réussi à convaincre la chaîne en leur disant qu'il n'y aurait pas besoin de faire de pub, que c'était une valeur sûre et tout ça, comment il a réussi à obtenir des crédits d'impôt. Alors il y a des gens que ça peut intéresser, moi j'avoue que ça m'a un peu gonflé
d'écouter tout ça. Ça peut être intéressant, mais pas sur des heures et des
heures. C'est long, voilà. C'est honnêtement un quart d'heure sur les crédits d'impôt pour acheter une bagnole, c'est long.
Voilà.
Mais par contre, il tenait vraiment à être très fidèle au texte de King, puisqu'il a refusé une offre à 6 millions de dollars d'un producteur qui demandait trop de changements. Donc il a accepté de tourner avec 1,5 million de moins, ce qui fait beaucoup, juste pour pouvoir garder la fidélité à l'original. Au niveau du casting, qui s'est tenu apparemment à peu près 2 semaines avant le tournage, donc ça s'est tout fait à la dernière minute, dans le rôle de Bert, donc le mari du couple, on a David Enders, qui a joué dans pas mal de séries, dont Alias, Heroes, Once Upon a Time ou High Zombies, dans des rôles secondaires mais relativement importants.
Alors, c'est que des séries que j'ai vues et je ne me souviens pas de lui.
écoute, moi j'en ai vu aucune dans le tas, donc je pourrais pas t'aider, c'est plutôt toi qui es bon en série.
Alors, du coup, Heroes... partiellement, et Once Upon a Time très partiellement, mais les deux autres, moi, je vois pas du tout quel personnage c'est dedans. Alors c'est pas un des personnages principaux en tout cas.
Non, c'est des rôles secondaires, mais à chaque fois il apparaît quand même dans 10-20 épisodes.
D'accord.
Donc du rôle secondaire important. Vicky, donc la femme du couple, est interprétée par Candice McClure, qui est surtout connue apparemment pour son rôle de Duala dans Battlestar Galactica, mais toi-même t'as eu un moment de doute pour retrouver qui c'était.
Oui, c'est un personnage secondaire, c'est un gros personnage secondaire, disons.
Donc c'était déjà pour Sci-Fi, peut-être le meilleur truc produit par Sci-Fi.
Oui, ça, clairement, on va se faire quelqu'un mangez-en.
Et elle joue Susnell dans le Carrie de 2002, donc on aura l'occasion de la revoir. Apparemment, c'est pas un chef-d'œuvre non plus.
Et toi, tu ne l'as pas encore vu ?
Non. Et du côté des enfants, encore une fois, j'ai été surpris de constater qu'on est face à des enfants qui ont un peu de bouteille quand même, ou qui ont rejoué après. Daniel Newman, qui joue Malakai, il avait déjà joué dans pas mal d'épisodes de série, même si toujours dans des rôles secondaires. Et depuis, il a joué dans Walking Dead. Apparemment, il joue un personnage qui s'appelle Daniel, mais j'ai pas poussé jusque-là Walking Dead. Donc,
d'accord.
Voilà. Alexa Nicholas, qui joue Russe, donc qu'on a totalement oublié parce qu'elle a un rôle très secondaire dans le film, elle avait eu un rôle important dans une série appelée Zoé pour Nickelodeon. Je sais pas si t'as vu. Apparemment, c'était assez populaire et l'ensemble du cast a eu un prix d'interprétation pour meilleur casting jeunesse.
Pour Nickelodeon, ça sous-entend une série d'animation.
Non, non, une série live, d'accord. Apparemment.
Non, bah, je ne le connais pas.
Et Preston Bailey, qui joue Isaac, donc le petit prêcheur, il joue Cody Bennett, donc le fils de la copine de Dexter dans la série, donc qui sert un peu de fils adoptif à Dexter.
Oui, d'accord.
Et il joue bien dans Dexter, tandis que dans le film, ils sont un peu tous nuls, les enfants.
Après, ils ont y a les années d'expérience en plus, hein.
Dans Dexter, c'était à la même époque, hein, donc je pense que c'est vraiment une histoire de direction d'acteur qui est, à mon avis, à peu près inexistante pour le film qu'on a vu. Donc, ouais, c'est des gens potentiellement doués, mais enfin, les deux seuls qui vont s'en sortir, pour moi, c'est Burt et Vicky, parce que c'est des adultes, donc des acteurs confirmés qui savent peut-être se débrouiller à peu près, même quand il n'y a personne pour les accompagner.
Disons que c'est les meilleurs du casting, enfin, en tant qu'acteur, c'est les meilleurs du film, sans être. Hein.
Ouais, ils sauvent les meubles. Voilà. Tandis que les enfants, c'est vraiment la débâcle, je trouve.
Ils sauvent les meubles dans un incendie inarrêtable, quoi.
C'est ça. Ça a été en plus une production très rapide, tant pour le tournage que pour la mise en place auparavant. Il y a pas mal d'effets physiques. Bon, ça, c'est plutôt louable dans l'intention, mais ils sont pas tous très réussis, on va y revenir. Il y avait la nécessité de gérer les enfants. Apparemment, il y a eu pas mal de soucis météo. Il a beaucoup plu pendant le tournage, donc les scènes d'extérieur ont dû être casées dans un délai beaucoup plus court que ce qui était prévu.
Mais ils ont pas fait cette sacrifice.
On a l'impression qu'il y a vraiment une bonne intention de toute l'équipe derrière, mais ils avaient ni assez de budget, ni assez de temps pour faire quelque chose de potable. Et on va y revenir, ils n'avaient pas un scénario formidable à la base non plus.
Voilà.
La musique est de Jonathan Elias et Nathaniel Morgan. Donc Jonathan Elias, c'est un compositeur de musique de film qui a un style qui a beaucoup varié au fil du temps, on va dire qu'il s'est adapté au mode. Mmh. Dans ses musiques de film, moi je note difficilement un style personnel, même si ce qu'il fait est plutôt sympathique. Il est plus intéressant dans ses projets solo, si vous avez l'occasion, The Prayer Cycle, c'est plutôt sympathique à écouter. Et c'était déjà lui qui avait fait la musique du premier film de la saga, celui de 1984. En fait, il a régulièrement travaillé avec Donald P. Borcher quand ce dernier était producteur. Il reprend d'ailleurs le même thème, dans des reprises orchestrales plutôt sympathiques et des pistes atmosphériques plus ennuyantes. Bon, globalement, c'est vraiment le cliché de la BO de film d'horreur de cette période-là, c'est-à-dire on a des cordes, on a des chœurs enfantins qui ont des ambiances un peu mystérieuses. Moi, je la trouve plutôt efficace, pas vilaine, pas extraordinaire non plus, mais c'est un des meilleurs éléments du film, pour moi.
Moi, je trouve qu'elle colle pas vraiment avec ce qu'on voit à l'écran, mais bon.
Ouais.
Après, oui, c'est clairement pas le point le plus négatif du film, ça, on est d'accord.
Elle fait le taf pour moi. J'aurais bien aimé pouvoir l'écouter en dehors, mais le CD est difficilement trouvable et coûte un peu cher, donc je vous aime bien, mais faut pas déconner.
Donner argent.
Voilà, donc d'ailleurs, d'habitude, je mets des musiques du film sur en fond sonore. Là, ça risque d'être des musiques de la saga Enfant du Maïs, enfin Démon du Maïs en vrac. Hein. Voilà, je vais pas me faire chier.
Faudra vraiment qu'on se questionne sur pourquoi ce changement de titre français. Pourquoi les démons?
Je sais pas, les démons, ça devait mieux faire vendre que les enfants.
Bah je sais pas, à cette époque-là...
Tu préfères les démons ou les enfants, toi?
Bah non, mais quand tu réfléchis, à cette époque-là, on était en pleine période où, justement, on avait des enfants démoniaques à l'écran.
Ouais, mais justement, peut-être que mettre démons, c'était plus vendeur.
Je sais pas. Garde Damien, la malédiction, c'est un enfant, et ça... Je sais pas.
Ouais, mais justement, il y a malédiction dans le titre, pas enfant. Il y a pas Damien, l'enfant.
Oui, non, mais d'accord, mais bon, c'est bizarre.
Je suis d'accord, hein, je comprends pas non plus, je trouve ça absurde, mais bon...
C'était la parenthèse, questionnement titre bizarre.
Après, une fois qu'ils l'ont fait une fois, effectivement, ils avaient plus qu'à tenir l'idée sur toute la saga.
Ça, oui, d'accord.
Et pour donner des nouvelles du réalisateur, Donald P. Borcher, dans une interview qui date d'il y a 2 ans déjà, déclare qu'il voulait faire un remake des Enfants du Maïs dans un futur post-apocalyptique dans lequel les enfants ont pris le contrôle du monde tandis que les adultes sont devenus une espèce menacée et chassée.
Ah tiens.
Bonne chance, Donald, on a hâte de voir ça.
Ah tiens.
Tell that to your American Studies class when you get back home. Nebraska radio hasn't been invented yet.
Nothing at all?
Zilch.
The other knot's coming now.
Atonement! Only by the blood of the Lamb are we saved! Atonement is the word, brothers and sisters. There's some that say...
I'm no wonder we were coming in five by. I'm right on top of the radio tower.
Me sick.
What did he say about the corn?
I wasn't paying attention.
He said something about the corn. I know he did. Something weird.
Et aussi, la version DVD est une version uncut, donc il y a une scène de cul qui est déjà totalement déplacée dans la version film, qui est rallongée dans la version DVD, et il y a plus d'éléments gore.
Ouais.
Donc voilà. Si vous voulez voir des enfants de 16 ans baiser devant des enfants de 10 ans, achetez le DVD.
Une scène de sexe très bien amenée.
Très bien amenée, et on va pouvoir passer à nos avis, même si on a déjà dit pas mal de trucs. Qu'est-ce que t'en as pensé, Christopher ?
C'est totalement nul. C'est totalement nul, pourquoi ? Parce que... Déjà, c'est très mal rythmé, parce que c'est très mal filmé, parce qu'il y a des effets numériques dégueulasses, et parce qu'on va y revenir, et c'est l'une des grandes forces de la nouvelle, c'est que le suspense est totalement pété. C'est-à-dire, la fameuse scène où l'enfant se fait écraser au début, et ben on voit directement l'enfant sortir du champ de maïs, on le voit se tenir la gorge, donc on sait déjà qu'il a été attaqué avant, donc même ça, c'est déjà désamorcé dès le début. Et on voit l'accident en lui-même, surtout. Donc, il n'y a vraiment plus aucun suspense. C'est-à-dire, quand les personnages se questionnent dans la voiture pour savoir si c'était un chien ou un enfant, bah, il n'y a aucun suspense, on sait que c'était un enfant.
Oui.
Donc, ça ne rime à rien, en fait. Tout ce passage ne rime à rien.
Et accessoirement, même les autres révélations qui auraient pu être mieux amenées, le souci, c'est que la nouvelle fait 30 pages, le film fait 1h30, donc ce qui correspond aux 15 premières pages de la nouvelle, où les révélations s'enchaînent assez vite, là ça dure 50 minutes.
Voilà.
C'est long. Il y a des grosses zones de vide où on a le couple qui se dispute, on a l'impression qu'ils sont en thérapie de couple. C'est long, ça dure, c'est assez insupportable.
Oui, parce que même ça, dans la nouvelle, on nous explique bien que vraiment ce voyage, c'est une décision... comment il s'appelle le personnage principal déjà ?
Burt.
C'est une décision de Burt pour essayer de remettre un petit peu la flamme dans le couple. Avant de tout casser et de divorcer, quoi. Et ça, c'est pas vraiment expliqué, en fait, dans le film. Dans le film, c'est plus mis en avant que le mec revient du Vietnam plutôt que cette histoire de couple.
À côté de ça, il y a des éléments qui sont repris limite à la lettre près, certains extraits de dialogue, même des détails, quand ils entendent effectivement les enfants au loin et qu'ils se disent qu'il y a du monde dans la ville. Aussi, à un moment, il s'arrête, il y a un chien qui vient mettre devant la voiture,
la scène du chien
et qui repart. Elle est là, cette scène-là, dans l'adaptation, alors que c'est juste un détail dans la nouvelle.
Ah oui, mais clairement, ça sert à rien.
Donc il y a plein de trucs comme ça où il reprend des détails, mais de manière ultra minutieuse. Et à côté de ça, ouais, il y a certains trucs qu'il est bien obligé de changer parce qu'il faut bien remplir 1h30, et il ne le fait pas pour le mieux.
Bah, surtout, il essaie de mettre du suspense inutile avec des apparitions des enfants. On les voit qu'ils observent le couple tout le long du film.
Oui, qu'ils discutent beaucoup plus entre eux, les enfants.
Et ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien parce que quand tu vois le film, tu te dis, bah, en fait, depuis le début du film, les gamins ont 10 000 occasions de les buter, en fait, ces deux cons qui se baladent dans la ville.
Oui, c'est surtout qu'on s'en fout, quoi, des enfants.
C'est totalement ridicule. C'est histoire de mettre des simili jumpscares ratés et qui n'amènent rien du tout.
Alors le fait d'avoir repris l'idée que les deux sont antipathiques et sont en fin de mariage, en film je trouve pas que ce soit une très bonne idée, parce qu'encore une fois, sur une nouvelle de 30 pages, on n'a pas besoin de s'attacher au personnage, c'est la situation et l'intrigue qui va compter. Sur un film d'une heure et demie, moi j'ai du mal à suivre une heure et demie sans avoir la moindre empathie pour les personnages.
Oui, parce que là tu t'en fous de ce qui va leur arriver.
Et surtout, comme il en rajoute que Donald Borcher, pour atteindre la bonne durée, ils deviennent vraiment ridicules dans leur dispute. C'est la femme, t'as l'impression qu'elle accuse l'autre d'avoir écrasé le gamin juste pour la faire chier elle. Ou d'être content d'avoir écrasé le gamin parce que ça lui rappelle le Vietnam. Il y a un moment, ça devient ridicule à ce stade-là.
En parlant de Vietnam, qu'as-tu pensé de cette extraordinaire scène de fuite dans ce champ de maïs où on voit en flashback des soldats américains?
Bon, écoute,
fantomatique évolue autour du personnage principal.
C'est un peu amené avec la subtilité d'un Michael Bay, hein. À la limite, pourquoi pas ajouter cet aspect-là au personnage, mais pourquoi l'amener de manière aussi brutale et aussi mal réalisée, surtout parce qu'il n'y a aucune différence dans la manière de filmer les scènes normales et les scènes de délire de Burt. C'est-à-dire, on passe même pas à une caméra une caméra point of view. Il n'y a aucun changement, donc...
La volonté d'expliquer au spectateur que le personnage a fait la guerre du Vietnam, bon déjà dans la nouvelle, ça s'explique aussi facilement, parce que comme ça te permet d'avoir un personnage qui est capable de courir longtemps pendant la fuite et d'être capable de se défendre.
Oui.
T'as pas besoin de l'expliquer, il a fait le Vietnam, c'est un ancien soldat, donc il a une forme physique qui lui permet de faire ça. Du coup, dans le film, tu pourrais te dire que c'est pareil, sauf que il a tendance à être un peu trop énervé, un peu trop physique dans le film, parce que casser un couteau à main nue, bon... se battre dans la ruelle avec des gamins et péter le bras de l'un, c'est un petit peu too much quand même.
Ouais, bah faut bien rajouter un peu d'action. Encore une fois, il a dû se rendre compte en cours de route que 30 pages, c'est beaucoup trop court pour tenir une heure et demie.
Mais c'est marrant que tu parles de Michael Bay, parce que le film a un point commun avec beaucoup de films de Michael Bay, c'est qu'il y a un filtre jaune pisse dégueulasse.
Ouais.
Il y a un filtre jaune sur tout le film qui est vraiment mais ignoble.
Globalement, la photographie est assez ignoble et les rares scènes où c'est essayer de créer un peu d'ambiance avec les éclairages, donc les scènes dans l'église principalement, ou la fin, c'est assez raté parce que... Mais on a déjà dit ça de plusieurs, de pas mal de films qu'on a abordés, la photographie gâche l'ambiance.
Ouais, clairement. Mais après ça, c'est une photographie vraiment typique sci-fi, mais vraiment quoi. C'est très courant chez eux, la photographie comme ça. Et les filtres un petit peu dégueux.
Et on a cette scène de cul qui n'a rien à faire là, qui est totalement gratuite.
Mais qui est glauque en plus.
Qui est glauque.
Parce que les enfants matent.
Mais je pense que c'était le but, c'était de créer quelque chose de glauque, de montrer une communauté incestueuse.
Et là du coup voilà. C'est glauque ridicule.
C'est ça le souci, c'est que les acteurs, ils ont déjà du mal à jouer la normalité, donc jouer une scène de cul glauque. Et les figurants sont totalement en ruine sur cette scène-là en plus. Enfin, c'est tout à fait absurde.
Et cette réalisation bancale.
Oui, ultra plate.
Ultra plate et surtout qui foire ses effets quand ils veulent faire des effets.
Ouais, elle le veut pas souvent, heureusement.
Alors, tout début du film, il y a une tentative à un moment. T'as les personnages, donc juste après l'accident avec l'enfant, ils s'en vont. Et en fait, tu vois derrière eux qu'il y a le petit gamin avec le plus grand.
Oui.
Et là, t'as un effet de zoom avancé avec la caméra d'un coup. Et c'est tellement mal à la tête cet effet-là.
Bah déjà le zoom c'est une technique à utiliser avec beaucoup de parcimonie hein, parce que c'est très intrusif quand même.
Et là c'est dégueulasse quoi.
Ouais. Le gamin globalement, alors c'est bête parce qu'il y a une sorte de prologue qui montre un premier gamin prédicateur et lui il joue plutôt bien.
Oui.
Par contre le gamin qui est après pendant tout le film, je suis désolé pour lui, hein, c'est clairement pas de sa faute, il a pas été dirigé. On peut pas demander à un gamin de 8-10 ans de bien jouer sans direction d'acteur. Mais il est assez catastrophique, il joue toujours « je suis le méchant !»
Oui, avec le geste à la César, le pouce en bas quand on tue quelqu'un, c'est tellement ridicule.
J'imagine Donald Pébancher qui dit « ouais, ça c'est super fin, je vais lui faire ça, c'est de la référence culturelle !»
C'est tellement ridicule. Mais oui, je ne comprends pas cette volonté de tourner des scènes dans la communauté. Surtout des scènes qui ne servent à rien, c'est-à-dire la scène où tu les vois manger, quel est l'intérêt ?
C'est vraiment juste faire du rêve, je pense.
Surtout que ça se passe pendant la fuite. C'est-à-dire que notre héros, notre brave héros, est en train de fuir dans le champ de maïs. Il est poursuivi, et tout d'un coup, ses poursuivants s'en vont, et il retourne dans la communauté pour manger. Et lui, il reste dans son champ de maïs comme un con, au lieu d'en profiter pour fuir.
C'est un peu comme dans c'est Astérix chez les Bretons, où il s'arrête pour leur jeter.
C'est ça. Mais tu te dis, mais pourquoi il en profite pas pour partir, ce con ?
Eh oui, mais c'est peut-être le dieu du maïs qui leur ordonne de s'arrêter pour leur pas. Hein.
Oui, mais lui, personne ne leur donne de
partir. Ah oui, lui, je me suis posé la même question. Voilà. Dans la nouvelle, encore une fois, ça passe parce que tout va très vite.
Et puis oui, parce que dans la nouvelle, tout ça se passe en quelques heures.
Ouais.
Et voire même le passage dans le champ de maïs, quelques minutes seulement.
Bah, on perd un peu la notion du temps à ce moment-là. À la limite, tu peux te dire qu'il y a le dieu du maïs qui les garde.
À la limite, si ça dure peut-être une heure, deux heures à tout péter, quoi. Mais là, ça dure une nuit.
Ouais. Et... pour le coup, c'est un des rares trucs que Stephen King a dit sur la saga de films en général. Alors, il écrivait ça avant celui de 2009, mais ça s'y applique aussi. Un des problèmes d'adapter les enfants du maïs en film, c'est que, autant rendre le maïs terrifiant en nouvelle, bah, il suffit d'une description bien faite, et King l'a fait, donc ça passe. Autant, bah, en film, c'est du maïs.
C'est ça.
C'est le maïs, ça fait pas peur.
Bah non. Surtout que dans le film, le maïs, il est dégueulasse.
Oui.
Parce que dans la nouvelle, on nous le décrit un champ vraiment parfait. Avec aucun moucheron, aucune mouche, aucune larve, alors que là, il est dégueulasse, c'est que t'as des mouches partout.
Bah, ils ont pris du vrai maïs, ils ont tourné là où ils ont pu, hein, dans des vrais champs de maïs.
C'est ça le souci.
Ouais.
Et c'est qu'un vrai champ, bah, il y a des ratés, quoi.
Je trouve ça, dans mon souvenir, ça passe mieux dans l'original, au niveau ambiance. Et l'original est pourtant pas fabuleux, hein, je comprends pas comment c'est devenu un film culte, mais ça passait mieux que ça.
Mais c'est vrai, ça. Comment c'est devenu un film culte ? Est-ce que tu penses que les gens confondent les enfants du marin, les démons du maïs et le village des damnés ?
C'est possible que ce soit le même courant de film, les démons du maïs.
Parce que tu vois, enfants un petit peu démoniaques...
Ou alors ils confondent avec les enfants du marais, ils sont peut-être cons. Hein.
Ou les enfants du paradis.
Aussi.
Et est-ce qu'il serait pas temps de passer à la scène culte?
Si, ah bah, ultra culte. Allez, c'est parti. Alors, pour la scène culte, bon, on a eu du mal à trouver parce que tout va très vite dans la nouvelle et dans le film, il n'y a pas grand-chose qu'on considère comme vraiment culte, mais on a choisi la première confrontation entre Bert et les enfants. Donc sa femme vient de se faire enlever, on se doute qu'elle s'est fait tuer, et Bert vient de comprendre que cette ville est totalement contrôlée par les enfants qui ont tué tous les adultes.
Bien joué, Sherlock.
Donc je lis la traduction de Loris Murray et Nathalie Zimmerman, éditée au Livre de Poche, nous sommes à la page 452. Sortant brusquement de sa léthargie, Bert dévala les marches, faillit tomber, et remonta à toute vitesse l'allée carrelée. L'un d'eux, un garçon d'environ 16 ans, dont le chapeau ne dissimulait pas entièrement les longs cheveux roux, fit volte-face et quelque chose fendit l'air. Bert ressentit une vive secousse dans son bras gauche et, pendant un instant, il eut l'impression absurde d'avoir été frappé à distance par un coup de poing. Puis la douleur le submergea, soudaine, fulgurante, et le monde s'obscurcit. Hébété, il examina son bras. Le manche et la moitié de la lame d'un couteau à cran d'arrêt faisaient à sa chair comme une étrange excroissance. Une tache rouge s'étendait sur la manche de sa chemise. Il ne pouvait en détacher son regard et se demandait comment, mais comment un couteau à cran d'arrêt avait bien pu pousser là ? Quand il releva les yeux, le rouquin était presque parvenu à sa hauteur. Il souriait, sûr de lui. « Espèce de petit salaud !» proféra Bert d'une voix rauque. « Recommande ton âme à Dieu, car tu ne vas pas tarder à comparaître devant lui !» rétorqua le gamin en lançant vers Bert deux mains qui visaient les yeux. Bert esquiva le coup, ôta le couteau de son bras et le planta dans la gorge du rouquin. Le sang jaillit si violemment qu'il en fut éclaboussé. Le garçon se mit à décrire de larges cercles en poussant un long râle. Il empoigna le couteau, mais n'eut pas la force de l'arracher. Bert le regardait, bouche grande ouverte. Rien de tout cela n'était réel. C'était un rêve. Le rouquin continuait d'avancer. En ce chaud début d'après-midi, son râle était le seul bruit audible. Les autres contemplaient la scène, frappés de stupeur. « Ce n'était pas prévu dans le scénario, » pensa Bert. « Vicky et moi, ça, oui, nous en faisions partie. Et le pauvre gosse laissé sur la route parce qu'il essayait de s'échapper aussi. Mais l'un des leurs, jamais. » Il leur jeta un regard féroce, ravalant son envie de hurler. « Alors ?» Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Le rouquin émit un dernier gémissement avant de tomber à genoux. Il dévisagea Bert pendant un instant, puis ses mains lâchèrent le manche du couteau, et il s'écroula. De la gorge des enfants massés autour de la Thunderbird monta une douce plainte. Tous les regards étaient sur Bert, et Bert les examinait, fasciné. Soudain, il prit conscience que Vicky avait disparu. « Où est-elle ? » demanda-t-il. « Où l'avez-vous emmenée ?» L'un des garçons porta un couteau de chasse maculé de sang à la hauteur de sa gorge et fit semblant de la trancher. Ce fut avec son sourire sa seule réponse. Au fond se fit entendre la voix d'un de ses camarades plus âgés. « Attrapez-le !» La horde avança dans sa direction. Bert recula. Puis ils pressèrent le pas. Bert recula plus vite. Le fusil, ce foutu fusil, inaccessible. Le soleil découpait des ombres franches sur le vert du gazon. Lorsqu'il atteignit le trottoir, Bert se retourna et courut. Une voix rugit. « Tuez-le !» Et ils se lancèrent à sa poursuite. Et maintenant, voici à peu près la même scène dans le film.
My name is Isaac, chosen by he who walks by and grows. Stephen Prophet, guardian of the corn. Let my aim be true if it is my will!
Ah! You little bastard! Little bastard!
You are a sinner. You are the fire of the corn. It will do you no good to curse me. Bow to God's will!
What have you done with my wife? Is she dead?
So it was that the will of God be done.
Oh, so you enjoyed it?
The Lord loveth a cheerful heart and a glad countenance.
Watch! All of you!
You're gonna have
got more than kitchen knives and screwdrivers, kitties. You better find a flamethrower. This is my game. I've played it before on better courts than yours.
The Lord is not mocked.
Neither am I, Sonny. Neither am I.
Voilà, donc, que penses-tu de tout ce passage dans le film que j'ai coupé un peu parce qu'il dure une éternité ?
Alors, beaucoup de différences avec la version nouvelle, bien entendu. Déjà, Vicky se fait attaquer au moment où Bird sort, alors que là, elle se fait attaquer avant.
Oui, la différence, c'est que dès qu'elle klaxonne en voyant les gamins approcher, Bird entend le klaxon et sort, tandis que là,
elle tape
comme une sourde sur le klaxon, mais lui, il en a rien à péter, il est dans l'église dans le film.
C'est ça, et surtout, c'est vraiment qu'un petit groupe de gamins dans le film, alors que dans la nouvelle, c'est vraiment tous les gamins en fait qui débarquent, c'est filles comme garçons. Alors que là, c'est que des garçons qui débarquent.
Ouais, bah ça coûte cher les figurants, ouais.
Et ce qui a coûté cher, c'est surtout qu'ils font péter la bagnole dans le film.
C'est vrai que quitte à avoir 4,5 millions de budget, c'était indispensable de dépenser de l'argent là-dedans.
Je pense que beaucoup a dû passer là-dedans. Parce que moi, on voit que c'est une vraie explosion, c'est pas une explosion en synthèse. C'est une vraie explosion. Mais elle est quand même tellement ridicule, parce que tu vois ce gamin qui balance une espèce de mégot allumé dans une flaque d'essence, qui s'en va un petit peu au ralenti, pff, explosion. Et ça ne rime à rien, tu ne sais pas pourquoi ils ont fait ça.
Et après la confrontation, bah, elle a le défaut de tout le film, vu qu'elle est rallongée, elle est ultra molle.
Elle est ultra molle et surtout, vu qu'il n'y a pas de budget, elle se passe dans une ruelle toute pérave.
Oui, avec un vieux graffiti au mur qui me fait marrer, moi.
Vraiment, cette scène-là, tu sais à quoi elle m'a fait penser ? Elle m'a fait penser à la baston dans Invasion Los Angeles. Avec beaucoup moins de talent, bien entendu. Tu sais, cette baston entre les deux protagonistes qui dure une éternité dans Los Angeles. Mais dans Invasion Los Angeles, c'est vraiment du maestria.
Oui, et pourtant, je suis pas sûr que le budget était énormément plus élevé parce que c'est un de ses très petits budgets à Carpenter, Invasion Los Angeles.
Et là, dans cette adaptation de King, c'est ridicule.
Et pourtant, l'effet quand il pète le bras, c'est un effet physique. Tu sens que les maquilleurs, ils y ont mis du cœur pour faire cet effet, qu'il a été répété.
Et l'effet n'est pas si dégueulasse que ça. C'est comment il est amené dans le film et comment il est mis en scène qui est dégueu.
Ouais, et puis, ils n'avaient pas de quoi engager des cascadeurs, et les acteurs sont clairement pas très doués pour tout ce qui est scène d'action, donc c'est jamais vraiment crédible.
Mais ça, c'est après le coup de couteau.
Ah, le coup de couteau est magnifique.
Il faut qu'on en parle, le coup de couteau. Donc le coup de couteau que dans la nouvelle, c'est un petit garçon roux qui le plante dans le bras de notre personnage principal.
Un garçon de 16 ans quand même, donc voilà. Quelqu'un qui potentiellement a un peu de force.
Une vraie force physique. Dans le film, je te laisse raconter, Issam, c'est magnifique.
Alors dans le film, c'est le prédicateur qui est sur un toit à 3 km, qui lance le couteau en disant « c'est la main de Dieu qui me guide », et le couteau se plante effectivement direct dans le bras, mais l'animation est super mal faite.
Ah, c'est ridiculement... C'est collé sur un fond vert dégueulasse et on voit le fond vert, quoi.
Ouais, c'est assez absurde.
C'est vraiment... Il y a les épisodes du Muppet Show qui sont mieux faits, quoi.
Et après, il y a ce truc épique où il sort le couteau, ou Bert sort le couteau, et le casse entre ses mains. Mais j'arrive pas à savoir, parce que d'une certaine façon, je me dis, ça se pète pas comme ça, un couteau. Mais d'une autre, je sens le couteau tellement miséreux que le geste de force, on dirait que j'ai eu l'impression qu'il pétait une brindille. J'étais vraiment un peu triste. Je suis trop fort.
Et puis il le fait en criant, vraiment, genre pour donner une sonorité épique à la scène, quoi.
Oui.
C'est magnifique, c'est extraordinaire.
Et clairement, à ce stade-là, dans le film, il n'en a plus rien à faire de Vicky.
Oui, clairement.
Tandis que dans la nouvelle, il demande de ses nouvelles, même s'il la déteste, il demande quand même ce qu'il en fait.
Il y a vraiment une vraie inquiétude dans la nouvelle. Mais cette scène dans la nouvelle, c'est le climax. Là...
Oui, après, c'est la fuite, ouais.
Voilà, c'est vraiment le summum de... Oh, c'est le gros retournement final, vraiment, c'est le moment de tension. Dans le film, c'est...
Si tu oublies le dernier retournement, quand il se rend compte qu'il y a réellement quelque chose dans le maïs, mais qui était indispensable.
Ça, c'est vraiment la conclusion finale, et on est d'accord tous les deux pour dire que King aurait pu s'en passer.
Ouais.
Voilà. Quelque chose d'autre à rajouter sur cette scène magnifique ?
Non. On va pouvoir passer à notre classement. Donc nous allons maintenant classer cette nouvelle dans les écrits de Stephen King. En premier, nous avons Cimetière, en deuxième, La Tour Sombre, en troisième, Salem, et en quatrième, Carrie. Où mettrais-tu les démons du maïs, enfin les enfants du maïs, dans cette liste?
Alors, on a pris la décision déjà de classer nouvelles et romans en même temps. Après, nouvelles, pour King, ça veut tout et rien dire.
Oui, il y en a des assez longues.
Il y en a des qui font facilement plus de 100 pages, voire plus de 150. Donc bon, en l'occurrence, forcément, les plus petites nouvelles ont plus de chances de se retrouver en fin de podium, parce que c'est là que ça va proposer le moins de développement de personnages.
Oui.
Mais concrètement, on va pas s'ennuyer à créer une troisième liste pour les nouvelles.
Oui, oui, ça serait trop de détails.
Voilà, c'était juste pour préciser. Et clairement, bah, malheureusement pour lui, les enfants du maïs vont se retrouver à la fin.
On est d'accord, c'est une nouvelle très sympathique, mais déjà, bah, elle a ce défaut sur sa fin, et puis ça a pas assez à proposer par rapport à un roman, mais voilà. Ça, c'est limite intrinsèque au concept.
C'est ça, mais c'est clairement pas une mauvaise nouvelle. King en a écrit des beaucoup plus mauvaises que ça.
Clairement, ouais, des beaucoup meilleurs aussi.
Des beaucoup meilleurs, mais clairement, Les Enfants du Maïs fait partie plutôt de la moyenne haute.
Oui, bah globalement, c'est un très bon recueil quand même. Dans ce macabre, il y en a pas vraiment de mauvaises dedans. Voilà, donc pour la nouvelle, moi, j'ai rien à ajouter.
Non,
on passe au film.
C'est une bonne nouvelle, et puis voilà, on peut passer au film.
Bon,
je vais
donner mon avis.
Un petit rappel de l'ordre des films.
Oui, l'ordre des films. Donc, en premier, c'est Carrie. En deuxième, c'est Cimetière. En troisième, c'est Salem. Et en quatrième, c'est La Tour Sombre. Bon, et ben, pour moi, c'est, en fait, la nouvelle, ça va avoir la même place dans les deux classements, parce que pour moi, c'est encore plus mauvais que La Tour Sombre.
La Tour Sombre va enfin quitter sa position de bon dernier.
C'est-à-dire, La Tour Sombre, on avait au moins les acteurs,
ouais,
on avait
clairement
au moins une ou deux scènes qui marchaient. On avait au moins le budget.
Oui, on avait au moins une belle image, une belle photographie, quoi.
Là, il y a vraiment tout qui se ligue. C'est interminable, c'est chiant, c'est mal rythmé, c'est pas très bien filmé, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué. Et ça pue la misère, donc il y a vraiment rien.
Ah, mais oui.
Le seul truc qui est mieux dans la nouvelle, dans Les Démons du Maïs, que dans La Tour Sombre, c'est la musique, je trouve.
Oui, bah oui, à la limite. Mais ça suffit pas à sauver le film.
Ah non, clairement pas, c'est...
Ah, il n'y a pas débat là, sur ce coup-là, c'est dernière position dans les deux classements.
D'ailleurs, il est assez dur à trouver en français, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de DVD avec la VF. Je vous ai probablement mis les extraits en VO, d'ailleurs, au montage, je verrai bien. Parce que c'est introuvable en français, et franchement, vous cassez pas la tête à chercher ça trop assidûment. Ça en vaut pas tellement la peine.
Mais, vraiment, précisons que... Autant pour la liste film, le bas du classement, c'est vraiment mauvais. Autant pour la liste écrit, le bas du classement, c'est quand même plutôt agréable.
Oui, je suis d'accord.
La liste écrit est quand même totalement qualitatif pour l'instant.
Pour l'instant, ouais.
Voilà, il n'y a vraiment rien de nul. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver?
Si, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc @augrèsdesbulles pour Chris et @cinémarchiviste pour moi.
Nous avons aussi maintenant une page Discord.
Oui.
Enfin, une page Discord pour le vidéoclub de Castle Rock, mais également pour les autres projets auxquels nous sommes liés.
Oui, donc Casse sur Table, un podcast de critique manga, et La Guerre des Claps, un podcast de ciné, mais plus généraliste.
C'est ça, également des lives Twitch, et possiblement des vidéos sur le jeu vidéo, également sur YouTube.
Et sur YouTube, vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne, Archiviste du Cinéma. Je propose des vidéos principalement sur le cinéma asiatique. Vous trouverez de toute façon les liens de tout ça dans la description.
Nous faisons beaucoup trop de choses.
Et je pense qu'il est temps de conclure cet épisode, qui fut un peu plus court que d'habitude.
Oui, bah, forcément, nouvelle oblige.
Oui, forcément. Et je te dis à la prochaine fois.
N'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. À très vite.
À la prochaine.